Le signe des quatre, une aventure de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Au fond de la rivière. Il était vraiment inutile de nous infliger cette contrariété supplémentaire. Vous nous avez donné assez de mal. En tout cas, docteur, je n'ai pas besoin de vous recommander la plus grande prudence. Ramenez-nous le coffre à Baker Street. Nous vous y attendrons avant de nous rendre au dépôt. Ils me débarquèrent à Vauxhall, moi et le lourd coffre de fer, plus un inspecteur costaud et sympathique. Une voiture nous conduisit chez Madame Cécile Forrester en moins d'un quart d'heure. La femme de chambre parut surprise d'une visite si tardive. Elle expliqua que Madame Forrester était sortie pour la soirée et rentrerait probablement très tard. Mais Mademoiselle Morstan était dans le salon. Je me fis introduire au salon avec mon coffre. L'inspecteur accepta de demeurer dans la voiture. Elle était assise près de la fenêtre ouverte, habillée d'une robe blanche diaphane que relevait une touche éclatante au cou et à la taille. Adoucie par l'abat-jour, la lumière de la lampe éclairait harmonieusement son visage délicat et donnait un air métallique aux boucles de son opulente chevelure. Appuyée au dossier de son fauteuil en rotin, un de ses bras pendant sur le côté, elle avait une pose triste et pensive. Pourtant, en m'entendant entrer, elle sauta sur ses pieds et ses joues pâles s'enfiévrèrent de surprise et de plaisir.
« J'avais bien entendu une voiture s'arrêter devant la porte, » fit-elle. « J'ai pensé que Madame Forrester revenait bientôt, mais je n'aurais jamais cru que ce pût être vous. Quelles nouvelles m'apportez-vous ? »
« Mieux que des nouvelles, » dis-je, et je déposai le coffre sur la table. Mon cœur était lourd, et cependant, je m'efforçai à la jovialité. « Je vous apporte quelque chose qui vaut plus cher que toutes les nouvelles du monde. » « Je vous apporte une fortune. » Elle jeta un coup d'œil sur la cassette.
« Ainsi donc, voilà le trésor, »
demanda-t-elle. Sa voix exprimait un détachement ineffable. « Oui, c'est le grand trésor d'Agra. Une moitié revient à Thaddeus Sholto et l'autre vous appartient. Vous aurez chacun quelque 200 000 livres. Vous représentez-vous ce que c'est ? Il y aura peu de jeunes filles en Angleterre qui seront plus riches que vous. N'est-ce pas merveilleux ? » Sans doute avais-je un peu exagéré mes manifestations d'enthousiasme, et le ton de mes compliments n'était pas entièrement convaincant. Je la vis hausser légèrement le sourcil et me regarder curieusement.
« Si je l'ai, dit-elle, c'est bien grâce à vous ?»«
Oh non pas, répondis-je, pas à moi, mais à mon ami Sherlock Holmes. Avec la meilleure volonté du monde, je n'aurais jamais pu démêler cet écheveau. D'ailleurs, nous avons bien failli perdre ce trésor en fin de compte. »
« Asseyez-vous, docteur Watson. Je vous en prie, racontez-moi tout. »
Je lui narrai brièvement les événements tels qu'ils s'étaient déroulés depuis que je l'avais vu. La nouvelle méthode de recherche qu'avait employée Holmes, la découverte de l'aurore, la venue d'Athelney Jones, nos préparatifs et la course folle sur la Tamise. Yeux brillants, lèvres frémissantes, elle écouta le récit de nos aventures. Lorsque je parlais de la fléchette qui nous avait manqué de si peu, elle devint pâle, comme si elle allait s'évanouir.
Ce n'est rien, murmura-t-elle,
tandis que je lui tendais un verre d'eau.
Rien qu'un léger malaise, ça a été pour moi un choc quand j'ai compris que j'avais exposé mes amis à un aussi horrible péril.
Ce n'est plus que du passé, répondis-je. Laissons de côté ces tristes détails. Parlons de quelque chose de plus gai. Le trésor est là. Que pourrait-il y avoir de plus gai ? J'ai obtenu l'autorisation de l'amener avec moi, pensant qu'il pourrait vous plaire d'être la première à le voir.
« Cela m'intéresserait beaucoup, »
dit-elle. Sa voix marquait peu d'empressement, mais sans doute pensa-t-elle qu'il serait peu aimable de paraître indifférente devant un trophée qui avait été si difficile à conquérir.
« Quel beau coffre, » fit-elle en l'examinant. « Je suppose qu'il a été confectionné aux Indes ? »
Oui. à Bénarès.
Et si lourd ! S'exclama-t-elle en essayant de le soulever. Le coffre à lui seul doit avoir de la valeur. Où est la clé ?
Un Smoul l'a jeté dans la Tamise, répondis-je. Et il va falloir emprunter l'un des tisonniers de Madame Forester. Il y avait sur le devant du coffre un large et solide fermoir qui représentait un Bouddha assis. Je parvins à introduire par-dessous l'extrémité du tisonnier et j'exerçai une action de levier. La serrure céda avec un claquement bruyant. D'une main tremblante, je soulevai le couvercle. Nous restâmes tous les deux pétrifiés. Le coffre était vide. Rien d'étonnant à ce qu'il fût si lourd. Le fer forgé, épais de près de 2 centimètres, l'enveloppait complètement. Il était soigneusement fait, massif et robuste. Le coffre avait été certainement fabriqué dans le but de contenir des objets de grand prix. Mais à l'intérieur, pas le moindre fragment, pas le plus petit débris de métal ou de pierre précieuse. Le coffre était absolument et complètement vide.
« Le trésor est perdu, »
dit Mademoiselle Morstan avec un grand calme. Lorsque j'entendis ces mots et que je compris leur plein sens, il me sembla qu'une grande ombre s'éloignait de mon âme. J'ignorais à quel point ce trésor d'Agra avait pesé sur moi. Je ne m'en rendis compte qu'au moment où je le vis enfin écarté. C'était égoïste sans aucun doute. C'était déloyal, méchant de ma part, mais je ne pensais plus qu'à une seule chose. Le mur d'or avait disparu entre nous. « Merci, mon Dieu !» m'écriai-je du plus profond de mon cœur. Elle eut un sourire furtif et me regarda d'un air interrogateur.
« Pourquoi dites-vous cela ?»«
Parce qu'à nouveau nous voici à ma portée, » dis-je en posant ma main sur la sienne. « Parce que, Marie, je vous aime, aussi sincèrement que jamais homme aima une femme, parce que ce trésor avec toute votre richesse me scellait les lèvres. Maintenant qu'il a disparu, je puis vous dire combien je vous aime. Voilà pourquoi j'ai dit « Merci, mon Dieu ».«
Alors, dans ce cas, moi aussi, je dis « Merci, mon Dieu »,
murmura-t-elle. Quelqu'un avait sans doute perdu un trésor cette nuit-là, mais moi, je venais d'en conquérir un. Chapitre 12. L'étrange histoire de Jonathan Small. C'était sûrement un trésor de patience que devait posséder l'inspecteur qui m'attendait dans la voiture, car je m'attardais longtemps près de la jeune fille. Mais le visage du policier s'assombrit lorsque je lui montrai le coffre vide.
« Zut ! Voilà la récompense disparue !» fit-il d'un ton maussade. « Pas d'argent, pas de prime !» Le travail de cette nuit aurait bien rapporté 10 shillings chacun à Sam Brown et à moi, si le trésor avait été retrouvé.
« Monsieur Tadeusz Sholto est riche, dis-je. Il veillera à ce que vous soyez récompensé, même sans trésor. » Mais l'inspecteur secoua la tête d'un air abattu.
« Ah, c'est du mauvais travail !» répéta-t-il. « Et monsieur Altelney pensera la même chose. »
Il ne se trompait pas. Le détective pâlit lorsque, parvenu à Baker Street, je lui montrai le coffre vide. Tous trois, Holmes, le prisonnier et lui, venaient d'arriver. Ils avaient modifié leur plan et décidé de se présenter à un commissariat sur leur chemin. Mon ami était vautré dans le fauteuil avec sa nonchalance coutumière, tandis que Small se tenait droit sur sa chaise. Comme j'exhibais le coffre vide, il s'adossa confortablement pour éclater de rire.
« Voilà encore un de vos méfaits, Small !» fit Atelney Jones furieux.
« Oui, je l'ai planqué dans un endroit d'où vous ne pourrez jamais le sortir, » cria-t-il. « Ce trésor m'appartient. Puisque je ne pouvais en jouir, j'ai pris bougrement soin à ce que personne ne le récupère. Je vous dis que pas un être humain au monde n'y a droit en dehors de 3 bagnards en train de pourrir aux adamants et de moi-même. Je ne peux pas en jouir, et eux non plus. J'ai toujours agi pour eux autant que pour moi. Le signe des quatre a toujours existé entre nous. C'est pourquoi je suis sûr qu'il m'approuverait d'avoir jeté le trésor dans la Tamise plutôt que de le voir tomber entre les mains d'un parent de Sholto de Morstan. Ce n'est tout de même pas pour les rendre riches qu'Achmet est mort. Vous trouverez le trésor là où se trouve déjà la clé et le petit Tonga. Lorsque j'ai compris que votre chaloupe nous rattrapait sans faute, j'ai lancé les joyaux dans la flotte. Résignez-vous, il n'y aura pas de roupie pour vous.
« Vous essayez de nous tromper, Small, » dit Athelney John sévèrement. « Si vous aviez voulu jeter le trésor dans la Tamise, il vous aurait été plus facile d'y jeter tout le coffre. »«
Plus facile pour moi de le jeter, mais plus facile pour vous de le repêcher, »
rétorqua-t-il avec un regard rusé.
« L'homme qui était assez droit pour m'attraper l'aurait été suffisamment encore pour retirer du fond du fleuve un coffre en fer. Ce sera plus difficile maintenant. » car ils sont éparpillés sur plus de 8 kilomètres.
Dame, j'en ai eu le cœur brisé en les jetant. J'étais à moitié fou lorsque j'ai vu que vous alliez nous rejoindre, mais il ne servait à rien de se lamenter. Dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas, et j'ai appris à ne pas pleurer devant les pots cassés.
Vous avez fait là une chose très grave, Small, dit le détective. Si vous aviez aidé la justice au lieu de la contrarier ainsi, vous en auriez bénéficié au cours de votre jugement.
« La justice, » gronda l'ancien bagnard. « Une belle justice, oui. À qui appartient ce butin, si ce n'est pas à nous? Quelle justice est-ce donc qui demande que je l'abandonne à des gens qui n'y ont aucun droit? Moi, je l'avais gagné. 20 longues années dans ces marécages dévastés par la fièvre, au travail tout le jour, sous les palétuviers, enchaîné toute la nuit dans des baraques repoussantes de saleté, harcelé par les moustiques, secoué par les fièvres, malmené par tous ces gardes noirs trop heureux de s'en prendre aux blancs. Voilà comment j'ai conquis le trésor d'Agra. Et vous venez me parler de justice parce que je ne peux supporter l'idée d'avoir tant souffert à seule fin qu'un autre en profite. Mais j'aimerais mieux être pendu 10 fois ou avoir dans la peau une des fléchettes de ton gars plutôt que de vivre dans une cellule en sachant qu'un autre homme prend ses aises dans un palais grâce à une fortune qui m'appartient.
Small s'était départi de son impassibilité. Laissant libre cours à ses sentiments, débitant son discours en un torrent de mots bousculés, il avait des yeux flamboyants. Ses mains s'agitaient avec passion, et les menottes s'entrechoquaient bruyamment. À voir cette fureur déchaînée, je compris que la terreur qui avait saisi le major Sholto à l'annonce de son évasion était fort bien fondée.
« Vous oubliez que nous ne savons rien de tout cela ?» dit Holmes tranquillement. « Nous n'avons pas entendu votre histoire et nous ne pouvons juger si le bon droit était originellement de votre côté. Monsieur, vous m'avez traité avec humanité. Pourtant, c'est à vous que je suis redevable de ces bracelets. Allez, je ne vous en veux pas, c'est la règle du jeu. Je n'ai aucune raison de vous taire mon histoire si vous désirez la connaître. Ce que je vais vous dire est la vérité du bon Dieu, je vous l'affirme. Oui, merci. » « Posez le verre à côté de moi, j'aurai peut-être la gorge sèche. »« Je suis né près de Pershore, dans le Worcestershire. Si vous allez y voir, vous trouverez un tas de Small par là-bas. J'ai souvent eu l'idée d'aller faire un tour dans la région, mais comme à la vérité je n'ai jamais été un motif d'orgueil pour ma famille, je me demande si l'on aurait été très heureux de me revoir. Ce sont tous de petits fermiers bien établis, allant à l'église, bien connu, bien respecté dans les environs. Moi, en revanche, j'ai toujours été un peu tête brûlée. Enfin, vers l'âge de 18 ans, je ne leur ai plus causé d'ennui. Mêlé à une violente bagarre au sujet d'une fille, je ne pus m'en sortir qu'en m'engageant dans le 3e des bœufs, qui était sur le point de partir pour les Indes. Cependant, je n'étais pas destiné à demeurer longtemps militaire. J'avais juste fini d'apprendre le pas de loi et le maniement de mon mousqueton lorsque je fus assez fou pour prendre un bain dans le Gange. Heureusement pour moi, John Holder, le sergent de la compagnie, était dans l'eau au même moment et c'était l'un des meilleurs nageurs de l'armée. J'étais à mi-chemin de l'autre rive lorsqu'un crocodile m'attrapa la jambe droite qu'il sectionna au-dessous du genou aussi proprement qu'un chirurgien. Je me suis évanoui sous le choc avec l'hémorragie et j'aurais coulé si Holder ne m'avait rattrapé et ramené au rivage. Je suis resté 5 mois à l'hôpital. Lorsqu'enfin j'en suis sorti, boitant avec ce pilon de bois attaché à mon moignon, je me suis trouvé réformé et inapte à toute occupation active. Comme vous voyez, la malchance déjà ne m'épargnait pas. Je n'étais plus qu'un infirme inutile et je n'avais pourtant pas encore 20 ans. Cependant, mon uniforme me valut bientôt un bienfait. Un type, Abel White, qui était venu pour des plantations d'indigo, cherchait un contremaître pour surveiller les indigènes et les faire travailler. C'était un ami de notre colonel, lequel s'intéressait à moi depuis mon accident. Abrégeons une longue histoire, le colonel appuya chaleureusement ma candidature, et comme le travail se faisait la plupart du temps à cheval, mon infirmité n'entrait pas en ligne de compte. Mon moignon était en effet assez long pour me permettre de rester bien en selle. Mon travail consistait à parcourir la plantation à cheval, à surveiller les hommes au travail et à signaler les fainéants. Le salaire était convenable, mon logement confortable. Dans l'ensemble, je n'aurais pas été mécontent de passer le reste de ma vie dans la plantation d'indigo. Monsieur Abel White était un homme de cœur. Il venait souvent me rendre visite et fumer une pipe avec moi, car là-bas, les Blancs sont plus amicaux les uns envers les autres qu'on ne le sera jamais chez nous.